C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, quelles sont les solutions concrètes et accessibles à tous pour se déplacer, se loger et se nourrir tout en tenant compte de la protection de la biodiversité, de la lutte contre la pollution et des changements climatiques? Voici l'une des questions posées par Emmanuel Macron dans sa lettre adressée aux Français en début de semaine pour cadrer le grand débat national qui vient de débuter. Des solutions, précise-t-il, qui doivent être conçues plutôt au niveau local que national. Car c'est à l'échelle des territoires que s'invente la transition écologique. Aucune technologie ne se développera si elle n'est pas adaptée au mode de vie et à la culture des personnes qui l'utiliseront. Ce n'est donc pas un hasard si les 20e assises européennes de la transition énergétique qui se dérouleront la semaine prochaine à Dunkerque, dans le nord de la France, ont choisi le thème des territoires solidaires et engagés. Engagés, c'est le point commun de tous nos invités.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Et pour débuter cette émission, je vous propose d'écouter les propos de Pierre Leroy. Il est maire depuis Saint-André et président du Pays du Grand Briançonnais qui regroupe 38 communes dans le sud-est de la France.
Depuis 35 ans, les choses bougent peu. Et à un moment donné, bien, plutôt que de lutter contre, il a fallu faire pour. Et donc l'envie de tenter de faire bouger les choses en ne sachant pas si réellement, en tant qu'élu, on a véritablement le pouvoir de faire. Et c'est ce que nous avons testé avec une liste citoyenne en 2008. En 2014, le bilan était très clair. Nous avons le pouvoir de faire. Et donc, nous sommes partis pour un deuxième mandat. Et en fait, on se rend compte que finalement, les différentes lois qui ont été votées sont des atouts pour nous. Et si on s'appuie sur l'existant de ces lois, on a vraiment les moyens de faire et de pouvoir bouleverser un territoire. Donc on a travaillé sur toutes les dimensions de la transition écologique, c'est-à-dire sur l'énergie, sur l'eau, sur la biodiversité, sur les circuits courts et l'agriculture, sur le tourisme différencié, sur tous ces aspects-là. Dans le domaine énergétique, c'était le programme sur lequel on a été élu. Nous avons dit aux habitants, voilà, nous, on souhaite que l'énergie soit publique, citoyenne, renouvelable et locale. Donc pour ça, on a besoin de vous. Et en fait, les habitants ont répondu positivement. Et donc, nous avons créé à cette époque-là une société citoyenne qui s'appelle la Sève, Soleil, Eau, Vent, Énergie. Donc, on a commencé tout petit, un capital social de 100 000 euros. Aujourd'hui, le capital social est à 900 000 euros. Et donc, on a 15 centrales photovoltaïques sur des bâtiments publics qui produisent aujourd'hui l'équivalent de ce que consomme la totalité des habitants. Mais parallèlement et prioritairement, nous avons aussi travaillé sur la sobriété de l'énergie, sur le domaine public. Voilà, c'était notre part, parce que l'objectif, c'est que chacun fasse sa part. Et nous, petit village du monde, on s'est dit, faisons notre part, sachant qu'on est sur un territoire qui est directement, très fortement impacté par le changement climatique.
Les élus ont le pouvoir de faire impulser la transition écologique. C'est une question de volonté politique. Ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. Nicolas Soudon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif de l'Action territoriale à l'ADEME, qui est l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors justement, vous observez comment les territoires s'engagent.
Et les territoires s'engagent à partir du moment où ils arrivent à partager les enjeux de la transition écologique avec les habitants.
Comme on vient de l'entendre.
Et je dois dire que l'exemple de Pierre Leroy à Briançon est très intéressant. D'ailleurs, on peut signaler que c'est un territoire qui est en cours de discussion pour un contrat de transition écologique avec le ministère. Et que c'est un contrat particulièrement intéressant puisqu'il cumule à la fois les enjeux de l'adaptation au changement climatique d'une part et de l'économie circulaire d'autre part. Et là, on voit bien qu'on a deux sujets qui parlent particulièrement à nos concitoyens, surtout dans le contexte actuel, on va dire, de débat un peu accentué sur ce sujet, y compris le débat du grand débat national lancé par le président de la République. Les enjeux climatiques, aujourd'hui, ils ont des conséquences très concrètes sur le trait de côte dans les littoraux, par exemple, également en montagne, on vient le voir pour Briançon. Pierre Leroy me disait il n'y a pas très longtemps qu'à la fois ça a des conséquences l'hiver, sur l'enneigement, mais aussi l'été sur des éboulements renforcés. Une ville comme Briançon, par exemple, est coupée du monde, parfois en hiver, mais aussi en été à cause de ces éboulements. Donc les enjeux de trouver de l'autonomie sur la gestion des matières, sur la gestion des flux, sur la gestion de l'énergie, est d'autant plus décuplé. Et on va dire que les solutions qu'ils ont trouvées à Briançon sont particulièrement intéressantes et réplicables probablement ailleurs. Et quand on sait que 90% des investissements publics en France sont portés par les collectivités locales en matière de transition écologique, c'est un rapport récent de l'OCDE qui dit ça, contre seulement 67% en Allemagne ou 60% en Italie par exemple, on voit bien qu'effectivement, comme on le dit, c'est les territoires qui doivent prendre des décisions.
Alors bonjour Ronan Dantec.
Bonjour.
Vous êtes sénateur de Loire-Atlantique et vous présidez l'association Climate Change et vous venez de publier le premier rapport de l'Observatoire mondial de l'action climatique des acteurs non étatiques. Donc pour simplifier, les acteurs non étatiques, c'est tout le monde sauf les responsables politiques nationaux.
C'est ça. Sauf les gouvernements.
Et alors donc, il y a trois parties dans votre rapport, dont une entière consacrée justement à la mobilisation territoriale, qui est essentielle et qui est en pleine progression à l'échelle du monde, hein, pas qu'en France.
Oui, à l'échelle du monde, on peut maintenant considérer qu'à peu près un habitant sur cinq de la planète vit sur un territoire où il y a eu un engagement de sa ville, de sa commune rurale ou de sa région, et ça monte à peu près de 2-3% par an. Il y a quelques années, on avait organisé à Lyon un grand sommet climat et territoire. On était plutôt à 13-14% de la population mondiale mobilisée. Là, on va vers les 20%, donc ça augmente, même si à l'échelle de cette course contre la montre, qui est la lutte contre le règlement climatique, il faudrait certainement encore aller plus vite.
Alors c'est pas facile à évaluer, hein, c'est ce que vous dites aussi dans votre rapport, c'est-à-dire que par exemple, il y a des pans entiers de la planète pour lesquels nous n'avons aucune donnée.
C'est vrai que c'est toujours difficile de mesurer les émissions d'un territoire. D'abord, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend les émissions directes sans être trop technique? Est-ce qu'on prend aussi la consommation, ce qu'on appelle le scope 3? Est-ce qu'on prend le transport aérien, du tourisme ou juste vraiment ce qui est émis sur place? Donc c'est assez technique. Malgré tout, on a quand même des chiffres. Si on prend surtout sur les émissions que les territoires maîtrisent, aujourd'hui les territoires qui sont très mobilisés, beaucoup de villes européennes, par exemple Copenhague, Stockholm, ou plus près de chez nous, Paris, Grenoble ou Nantes, on arrive quand même à avoir des villes qui se rapprochent à terme de la neutralité carbone, comme Copenhague, ou une ville comme Nantes qui est à moins 30% d'émissions en 2020, ce qui est au-delà de l'objectif européen. Donc il y a des villes qui savent faire, et qui savent faire non seulement sur des projets originaux, mais sur des résultats quantitatifs.
Et pas seulement en Europe.
Je crois qu'il y a une grande dynamique aujourd'hui aux États-Unis, notamment portée par les régions. Il y a une grande dynamique des villes canadiennes. Les résultats de Vancouver sont par exemple très très intéressants. Ce qui nous manque un peu quand même, ce sont les villes chinoises. Aujourd'hui, les Chinois émettent quand même par habitant autant de CO2 qu'en Europe. On sait qu'il y a un début de dynamique des villes chinoises, mais on n'a pas pour l'instant de résultats. Et on a quelques résultats inquiétants. Par exemple, en Afrique, on n'imagine pas qu'un habitant de Lagos, aujourd'hui, émet plus de CO2 qu'un habitant d'une ville européenne bien organisée.
Et alors, ce qui est intéressant dans votre rapport, c'est que vous avez fait quand même une cartographie de l'action. Donc, on voit, il faut aller sur Internet, lire.
Climate-chance.org.
Ouais. Mais on arrive quand même à avoir aujourd'hui une vision de cette action, même si, comme vous le disiez, elle est largement insuffisante, mais elle est quand même là et puissante.
Oui, et puis elle est suivie. Par exemple, il y a quand même une dynamique très très forte en Europe, et on en parlera à Dunkerque, qui est l'initiative du pacte des maires, du Covenant of Mayors, qui aujourd'hui, c'est 6000 territoires européens qui sont mobilisés, ça augmente régulièrement, c'est suivi, il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques entre les territoires, et ça représente pratiquement un tiers sur les territoires mobilisés, un tiers du résultat attendu pour l'ensemble de l'Europe. Donc c'est tout à fait significatif en termes quantitatifs, et les villes qui ont rendu ces derniers mois, donc ça c'est vraiment notre boulot avec l'Observatoire, qui ont rendu leurs propres études sur leur territoire, ces villes-là sont déjà à moins 23% en moyenne d'émissions en moins, ce qui est 60% de leur objectif 2030. Donc elles vont très vite, elles vont souvent plus vite que ce qui était attendu.
Et puis ce qui est intéressant aussi, vous le mentionnez rapidement, mais avec le Global Covenant of Mayors, mais il y en a plein d'autres, il y a beaucoup de réseaux de villes, c'est-à-dire les villes travaillent entre elles, s'entraident, oui, apprennent les unes des autres. Enfin, les villes et les territoires.
Oui, ça, je crois que c'est un des socles. Alors, il se trouve que je suis encore le porte-parole climat de CGLU, qui est le grand réseau mondial des territoires. Cette capacité de travailler en commun est absolument essentielle. Et on voit que sur le climat, même s'il y a plusieurs réseaux, et on essaye effectivement d'expliquer dans le rapport un petit peu l'articulation entre tous les réseaux, tous ces gens-là sont capables de travailler ensemble. Tout de même, la réponse sur la question climatique, on le sait, c'est la coopération. Et là, je pense que les territoires le montrent.
Alors justement, on a d'autres personnes engagées dans ce studio. Louis-Philippe Blervac, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, c'est dans le nord de la France, et vous présidez la commission REF3 que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
Oui, alors REF3, c'est la grande dynamique de transition économique, écologique et je voudrais dire solidaire qui a été initiée dans les Hauts-de-France en 2013 sur les principes de la troisième révolution industrielle. Une démarche qui a pour vocation de créer de la valeur ajoutée, des emplois, d'améliorer la santé et le bien-être des habitants en s'appuyant sur tout le travail qu'on peut mener en matière d'efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables, de la mobilité durable également, de la transition numérique, hein, qui est également a une dimension importante, mais également de la capacité à saisir les opportunités de nos territoires et les ressources humaines, mais également naturelles, et notamment les bioressources qui sont importantes en Hauts-de-France.
Alors, depuis 2013, vous pouvez faire un premier bilan. Vous me disiez, vous avez quand même 15 territoires engagés. Ça va de 12 000 à 650 000 habitants. Ça fait du monde.
Oui, vous évoquiez il y a quelques instants la mise en réseau des territoires. Donc, on a effectivement 15 territoires engagés qui travaillent en réseau. Ce sont les territoires dits démonstrateurs de REF3 en Hauts-de-France. Et petit à petit, j'espère qu'on arrivera à couvrir les 100% de population peut-être en Hauts-de-France. Et donc, une quinzaine de territoires engagés, mais également 968 projets à ce jour recensés, dont plus de la moitié portés par des entreprises de la région et qui représentent ces entreprises 55 000 emplois.
Alors, expliquez-nous quel type de projet.
Au niveau des entreprises, on va avoir des projets de type efficacité énergétique, par exemple. Et souvent, ça part de là. C'est la première étape. Et puis après, les entreprises vont aller plus loin.
Alors, l'efficacité énergétique, ça veut dire faire pareil avec moins d'énergie consommée.
Voilà, c'est diminuer nos consommations énergétiques. Mais c'est également important de le faire avec la ressource en eau et l'ensemble des autres ressources. Comment est-ce qu'on diminue nos prélèvements sur les ressources? Et quand on fait ça, on fait des gains de compétitivité. Et donc, les entreprises gagnent de l'argent et peuvent créer de l'emploi aussi grâce à cela. Et puis la deuxième étape qu'on observe dans les industriels qui s'engagent à ça, c'est de développer des usines REF3. C'est-à-dire qu'au-delà de cela, on va se dire comment est-ce qu'on a un bâtiment qui va être également producteur d'énergie, comment est-ce qu'on va être en éco-production. Et on a l'exemple d'une industrie comme ça qui est Bec-Crépel à Armentières, qui a fait d'abord de l'efficacité énergétique, qui ensuite s'est dit je vais faire une usine où on va faire de l'éco-production, et qui après s'est dit bah tiens, mon usine ça va être un tiers-lieu, on pourra avoir un repair café, on pourra avoir une AMAP, on pourra avoir des bornes de rechargement des véhicules électriques. Donc vous voyez vraiment une évolution de la manière de penser des entreprises. Et ça concerne tous les secteurs d'activité, ce n'est pas que l'industrie.
Et plein de types d'acteurs différents, puisque vous impliquez aussi les universitaires, par exemple.
Oui, c'est fondamental. Pour que les territoires puissent avoir ce rôle d'entraînement de locomotive, il faut éminemment impliquer, bien sûr, les acteurs économiques. Et ce qui est intéressant en Hauts-de-France, c'est qu'on a eu une gouvernance par la région et par la CCI de Hauts-de-France, en associant tout de suite les territoires, les écoles, les universités et la société civile à travers le CESER. Et on a créé comme ça une gouvernance, un forum d'orientation qui porte et qui essaye d'associer un maximum l'ensemble des acteurs.
Et quand les populations sont impliquées, ça fonctionne, comme nous le verrons dans un instant aussi sur le continent africain, dans la ville de Chefchaouen au Maroc.
Love, love alone, cost King Edward to leave the throne. I know King Edward was noble and great, but his love would cause him to abdicate. Cost King Edward to leave the throne. I know my mommy, she gonna grieve. He say I cannot help, but I'm bound to leave. His love alone cost King Edward to leave the throne. And he got the money, and he got the talk, and the fancy walk just to suit New York. His love alone cost King Edward to leave the throne. You can take me throne, you can take me crown, but leave me Miss Simpson to renown. He says his love alone cost King Edward to leave the throne. I come a roll upon my mind. I cannot leave Miss Simpson behind. His love alone cost King Edward to leave the throne.
If a plane or a ship don't carry me free, I'll walk with Miss Simpson across the sea. It's love alone cost King Edward $3. On the 10th of December you heard the talk when he gave the throne to the Duke of York. It's love alone cost King Edward $3. Then Baldwin water break down the stand. He say, come to me, you American. It's love alone cost King Edward $3. Then Baldwin surely break down the stand. He say, I'm giving up with my government. It's love alone cost King Edward to leave the throne. Now he's the victim of circumstance. Now they live in the south of France. It's love alone cost King Edward to leave the throne. If you see Mrs. Simpson across the street, you can guarantee she's a busy bee. It's love alone cost King Edward to leave the throne. Let the organ roll, let the church bell ring. He say, good luck to our second bachelor king. It's love alone cost King Edward to leave the throne.
Et ça danse dans le studio 42 de RFI, Love Alone, Blind Blake dans C'est pas du vent. Nous parlons de l'importance de l'échelle du territoire pour mettre en place la transition écologique. Et c'est vrai sur tous les continents, comme le démontre Mohamed Sefiani. C'est le maire de Chefchaouen, une ville de 70 000 habitants dans le nord du Maroc.
Depuis 8 ans, nous avons décidé, majorité et opposition, donc au niveau politique local, que notre ville devrait devenir une ville écologique, une ville durable. Et là, nous ne l'avons pas fait tout seul. Nous l'avons fait aussi en associant les actrices et les acteurs locaux de la ville, et notamment le tissu associatif, les professionnels, le secteur privé. Et c'était un défi pour nous parce que nous voulions que cet engagement ne reste pas lettre morte. Et c'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par avoir une vision de ce que devrait devenir notre ville de Chefchaouen. Tout d'abord, on a travaillé sur des services de base importants, tels que l'assainissement, l'eau potable. Maintenant, on est à 100%, même les quartiers périphériques de la ville, qui sont nés suite à l'exode rural, parce qu'on est entouré du monde rural. Tout le monde est branché à l'eau potable, cette affaire d'eau potable et les SAV et d'électricité, on a terminé. En termes d'assainissement liquide, on a bâti tout un réseau. Pratiquement les deux tiers ils sont terminés, le un tiers c'est en cours. Et on a eu une station d'épuration, nouvelle génération, pour recycler, pour traiter les eaux usées. Du point de vue énergie, nous avons fait tout un programme d'énergie durable, et notamment l'efficacité énergétique, l'usage des énergies renouvelables. On est maintenant en cours de généraliser les plaques solaires au niveau de tous les bâtiments municipaux. On avait décidé que tous les nouveaux bâtiments publics au niveau de la ville qu'ils soient des bâtiments durables, avec le système d'isolation, avec toutes les techniques pour qu'un bâtiment soit durable. Et on a créé un centre info énergie. Ça, c'est le premier centre info créé au niveau du Maroc. Et ça, c'est dédié à la sensibilisation et aux conseils pratiques pour utiliser l'énergie pour les citoyens, pour les élèves, pour les femmes, pour les professionnels et les entreprises. Nous avons fait un diagnostic exhaustif de l'éclairage public, tout le réseau, point lumineux par point lumineux. Et nous avons commencé à changer les lampes ordinaires avec les lampes à technologie LED.
Renan Dantec, je rappelle que vous présidez l'association Climate Chance qui soutient depuis 2015 le rôle central des acteurs non étatiques dans l'action climatique. Et vous avez organisé un sommet au Maroc, c'était en 2017, un autre en Côte d'Ivoire, c'était en 2018. Preuve que sur le continent africain aussi, ça bouge, comme on vient de l'entendre avec ce témoignage de Mohamed Sefiani.
Oui, il y a beaucoup d'initiatives. D'ailleurs, le prochain Climate Chance sera à Accra et la ville d'Accra au Ghana veut être neutre en carbone en 2050.
Alors neutre en carbone,
ça veut dire que globalement, entre les émissions et la captation du CO2, on sera sur un bilan neutre, comme Copenhague finalement. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui dans les villes africaines, c'est qu'il y a des initiatives qu'on a tendance à voir un peu comme des initiatives plutôt de villes occidentales, qu'on retrouve à Lagos. Il y a un système de vélo en libre-service, par exemple. À Kigali, ils en font une grande opération aussi de sensibilisation sur les enjeux de santé. Il y a des journées sans voiture. À Dakar, le plan climat est vraiment un outil assez fort pour sensibiliser la population sur l'ensemble des enjeux environnementaux, y compris de pollution et de biodiversité. Donc il se passe des choses en Afrique. Il y a aussi des enjeux forts, parce qu'il ne s'agit pas juste de compiler des actions. On voit par exemple que la ville du Cap a fait quelque chose d'assez important pour l'Afrique, qui est aussi de re-questionner le monopole sur la distribution d'électricité, qui est un vrai sujet africain. Donc ils ont mis un coin, ils ont trouvé un accord avec la société de distribution pour développer le photovoltaïque. Ils ont des résultats quantitatifs très intéressants sur le photovoltaïque. Donc il se passe beaucoup de choses en Afrique. Après, la question fondamentale, c'est l'accès au financement. C'est-à-dire, il y a des projets, il n'y a pas obligatoirement les financements autour.
Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les financements restent au niveau national.
C'est évident que ce qui se joue dans les prochaines années, voire dans les prochains mois, si on veut vraiment réduire les émissions, développer les projets, c'est qu'il faut des accès facilités au financement pour les acteurs non étatiques, et notamment pour les villes africaines, qui aujourd'hui n'y arrivent pas. Et la France organisera son prochain One Planet Summit à Nairobi à la mi-mars, normalement, avec le Kenya. Je pense que cette question de l'accès au financement, des garanties apportées, y compris dans la coopération décentralisée, pour faciliter cet accès au financement et au montage des projets, sera un élément absolument central.
Alors avec nous aussi Clément Bresciani et François Glaiseau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous faites partie de l'association Les Vagabonds de l'énergie, qui a une démarche originale que je vous laisse nous expliquer, Clément.
Eh bien, c'est un collectif de voyageurs qui voyagent sur le thème de l'énergie, et donc ils vont aux quatre coins du monde à la pêche, aux projets, aux initiatives innovantes et intéressantes, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des modèles de gouvernance, à des façons de s'organiser dans certaines initiatives qui sont pour la plupart sous forme de coopératives par exemple.
Et justement, vous allez de territoire en territoire. Vous ne restez pas au niveau national dans la capitale à interroger les acteurs politiques.
Non, c'est ça. On a vagabondé du coup beaucoup à travers le monde avec François. Il y a même d'autres vagabonds aujourd'hui qui continuent. Mais on passe le plus de temps aussi en France. Donc on voit aussi beaucoup les citoyens qui se bougent en France, et c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup.
François Glaiseau, vous avez réagi quand on entendait Mohamed Sefiani dire qu'il avait créé un point info énergie dans sa ville au Maroc pour justement interagir avec la population, parce que l'un des intérêts de votre démarche des Vagabonds de l'énergie, c'est que justement vous dites qu'il y a une sociologie de l'énergie et qu'en fait on ne peut pas juste dire aux gens, voilà, la technologie qu'on vous impose c'est cela, si elle n'est pas adaptée au contexte culturel et au mode de vie quotidien des gens, ça ne marchera pas.
Très intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait les gens ne passent pas à l'énergie parce qu'ils en ont la capacité technique, ils passent à une énergie parce qu'ils en ont la culture. À partir du moment où on informe, on éduque, on conscientise sur des modèles de production d'énergie, ou même sur des façons d'économiser, ce qui est avant tout essentiel, avant de chercher à produire du renouvelable ou de l'efficacité, d'abord évitons de produire, enfin de trop consommer. Et donc plus on a d'informations, plus on a de connaissances sur les sujets, plus on peut s'accaparer les projets et plus on peut agir dans le long terme. C'est-à-dire que si on vous dit éteignez la lumière, si vous n'avez pas compris pourquoi, ça ne servira à rien. Il faut toujours informer.
Et alors, qu'est-ce que vous avez noté dans vos vagabondages, comme ça, comme démarche intéressante, de démocratisation, peut-être, de l'accès à l'énergie ?
En Thaïlande, par exemple, un projet qui s'était vu imposer de production d'énergie photovoltaïque était complètement refusé par la population, parce que la population avait associé le développement des énergies renouvelables à l'augmentation des températures, à la diminution des pluies, et du coup, avait réellement, et en toute logique, penser que les panneaux photovoltaïques contribuaient au dérèglement du climat.
Donc il a fallu quoi
Il a fallu expliquer. Que nous on passe par là, qu'on se rende compte de la réalité du problème et qu'on arrive à discuter avec les chefs de l'opposition locale pour leur dire mais en fait c'est une solution qui vous est proposée, qui améliorera votre quotidien. Et en fait c'était extraordinaire de se rendre compte que si c'est pas accompagné d'une pédagogie citoyenne, le projet est refusé.
Alors, Louis-Philippe Blervac, c'est ce que vous pouvez voir, vous aussi, par exemple, en France, dans les Hauts-de-France, sur votre territoire, c'est qu'il faut expliquer aux gens, il faut faire beaucoup d'interactions avec la population.
Oui, c'est un de nos enjeux, d'ailleurs, pour amplifier la démarche REV3, c'est qu'il y ait une bonne appropriation par l'ensemble des habitants. Et pour ça, d'ailleurs, on pense s'appuyer sur les travaux du CESER pour nous aider à cela, ou d'associations locales. Le CESER, c'est donc le Conseil environnemental, social, environnemental, régional. Il y a le CESER au niveau national et le CESER dans chaque région. Mais on voit bien aussi qu'il faut que cette démarche-là s'inscrive dans une démarche globale d'amélioration de l'habitat. Il y a la précarité énergétique avec les enjeux aussi en matière d'achat, mais aussi Allez, on va dire, on fait pas des travaux de rénovation énergétique comme ça en général. Il faut qu'on le vende, entre guillemets, aux habitants comme une démarche globale d'amélioration du quartier, de l'habitat, etc. Et qu'on tienne vraiment compte de l'ensemble des besoins des habitants dans leur logement. Et là, on rentre dans des logiques de partir des usages, de fonctionnalités, etc.
Nicolas Toudon.
Oui, on peut dire que faire participer les habitants à la transition écologique et énergétique, c'est un enjeu fondamental. C'est ce qui permet de la rendre plus acceptable et surtout de la faire comprendre. Par exemple, depuis 2014, à l'ADEME, on a beaucoup soutenu ce qu'on appelle les ENR citoyens, qui vont un peu plus loin que le crowdfunding simplement. L'idée est que les citoyens participent aussi financièrement autour de table et à la gouvernance des projets. En l'espèce, en France, depuis 2014, on a porté à peu près 297 projets citoyens, qui sont des projets de panneaux photovoltaïques partagés ou alors d'éoliennes. Ce chiffre a été multiplié par 3 entre 2014 et 2017. Il y en a aujourd'hui 102 en exploitation, ce qui représente environ 170 millions d'euros engagés dans les énergies renouvelables et à peu près 10 000 actionnaires au total. Donc on voit bien que là, c'est un moyen essentiel d'arriver à pousser les solutions nouvelles et à les faire accepter aussi, parce qu'on sait que souvent des projets éoliens, par exemple, ont du mal à être acceptés localement par les riverains.
Et ce sont des chiffres assez faible au regard, par exemple, de notre voisin allemand.
Alors, bien sûr, il faut certainement les amplifier, d'autant plus que ce sont des projets qui permettent aussi d'associer les enfants, les jeunes, de faire de la pédagogie. J'ai un exemple entre Nantes et Rennes, un territoire que doit connaître Renan Dantec, à Vessac. Voilà, c'est un territoire historique, puisque depuis 2005, en fait, le projet a été identifié avec des premières réunions publiques en 2011. Et aujourd'hui, ce projet porté par une association citoyenne en Pays de Vilaine a permis un développement de 22 000 mégawatt-heure par an, ce qui représente à peu près la consommation de 7 000 habitants. Voilà, pour un coût total de 20 millions d'euros. Donc on est là dans un projet aussi qui est visité par des enfants des écoles locaux. Un autre exemple en Guadeloupe, à Bouillante, où l'éclairage public posait un problème fondamental, la conversion avec des LED, etc. La commune n'avait pas les moyens de financer ce projet, et du coup elle a fait appel au crowdfunding, qui a permis de très rapidement, en quelques jours, de réunir les financements nécessaires.
Voilà, donc quand on voit son intérêt, qu'on explique bien aux gens, les gens s'investissent. Clément Bresciani, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, sur la question de l'éolien, c'est un sujet qui est vraiment qui est flagrant sur cette question de l'implication citoyenne, parce que l'éolien pose de gros problèmes d'acceptation, comme ça a été dit. Et donc, avant notre tour du monde, on a fait un petit tour de France avec François, et justement pour aller voir des projets éoliens. Et donc, on est allé voir des projets conventionnels, des projets participatifs et des projets citoyens, c'est-à-dire des projets conventionnels avec juste une entreprise qui investit sur un territoire. Un projet participatif où certains citoyens locaux ou pas sont invités à participer au financement, et des projets citoyens où là, clairement, on a une gouvernance qui est partagée entre des citoyens locaux, des collectivités, potentiellement des entreprises, de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Et donc, tous ces gens qui se mettent autour d'une table et qui arrivent à investir de l'argent ensemble dans un projet. Et donc, cet argent qui est investi par le territoire, il revient après au territoire. Et on remarque que tout d'un coup, les éoliennes font d'un coup beaucoup moins de bruit, des nature moins de paysages, tue beaucoup moins d'oiseaux, et finalement, voilà, le projet est beaucoup mieux accepté.
Renan Dantec.
C'est pour dire que le dernier projet d'éolienne que j'ai inauguré avec les élus locaux en Loire-Atlantique, il n'y a pas eu de recours. Par rapport à ce qu'on dit sur l'éolien qui est combattu en permanence, il n'y avait pas eu de recours, et le Parlement a rééquilibré, en plus en termes de retour sur investissement, les parts communales et intercommunales, ce qui est aussi un élément fort de l'adhésion des populations qui voient bien derrière les services qui vont être financés. Moi, je crois que les choses évoluent, et évoluent aussi parce que c'est beaucoup d'emplois sur les territoires. C'est de l'emploi sur la maintenance de l'éolien. Sur le photovoltaïque, à Nantes, quand on dit les panneaux viennent de Chine, bah on vient de créer une centaine d'emplois justement de production de panneaux photovoltaïques dans l'agglomération nantaise. Donc là, je crois qu'effectivement, les habitants voient de plus en plus leur intérêt, en plus du fait de participer à la stabilisation du climat, qui est aussi leur intérêt.
Et des emplois qui ne sont pas délocalisables comme d'autres entreprises sur votre territoire, type en ce moment, par exemple, BIC.
Oui, ça c'est évident. Qu'on ne va
ils
pas...
fabriquent nos BIC 4 couleurs, et en France c'est trop cher, donc on va aller le faire en Tunisie.
Et il y a une vraie mobilisation des salariés à Vannes.
Nicolas Soudon, rapidement.
Simplement, une éolienne, c'est un emploi. Plus on aura d'éoliennes, plus on aura d'emplois.
C'est bien noté.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
l'occasion des 20e assises européennes de la transition énergétique qui se dérouleront la semaine prochaine dans le nord de la France, dans C'est pas du vent, nous parlons du rôle que peuvent jouer les acteurs non étatiques et notamment les collectivités territoriales dans la transition écologique. Et nous sommes justement en ligne avec Patrice Vergriette, le maire de Dunkerque et le président de la communauté urbaine de Dunkerque. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter la communauté urbaine de Dunkerque en quelques mots ?
Ah, la communauté urbaine de Dunkerque, donc c'est toute la partie du littoral nord, donc tout en haut de la France, qui représente 200 000 habitants. C'est une vingtaine de communes, donc autour de Dunkerque, avec la frontière belge d'un côté, la frontière du Pas-de-Calais de l'autre.
Et Dunkerque est devenue le 1er septembre la plus grande ville d'Europe à mettre en place la gratuité des bus pour tous. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous pris cette décision ?
Alors d'abord, c'était un enjeu fort, le transport collectif sur Dunkerque, parce que nous étions une ville qui a été rasée durant la guerre. Vous avez dû regarder le film de Christopher Nolan, et qui était vraiment reconstruite pour la voiture. Donc ici, il y avait une part des déplacements qui étaient effectués en voiture qui était très élevée, et très faible en bus, très faible à vélo. Donc il fallait rééquilibrer les pratiques de déplacement des Dunkerquois, et donc il fallait une mesure forte. Cette mesure forte, ça a été la gratuité du transport public, et effectivement, depuis qu'on l'a mise en place, le choc psychologique généré par la gratuité a vraiment fait réfléchir les Dunkerquois et a modifié substantiellement les pratiques de mobilité, puisqu'aujourd'hui on constate 50% de croissance de la fréquentation en semaine et 120% de croissance le week-end. Et en plus, c'était une mesure qui alliait à la fois un progrès social, puisqu'évidemment c'est l'accessibilité de l'agglomération pour tous, la mobilité pour tous, c'est quand même la première arme de lutte contre l'exclusion. C'est un plus en termes de pouvoir d'achat, puisque la population en a largement bénéficié. Et puis c'est un plus pour l'environnement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est essentiellement des gens qui prenaient leur voiture, qui maintenant montent dans les bus. Donc à la fois, c'est une mesure qui, en matière de politique publique, réconcilie le social, l'environnemental et l'économique, mais c'était aussi quelque chose qui était très adapté à l'histoire de Dunkerque pour essayer de rééquilibrer les pratiques de déplacement.
Mais c'est une mesure que vous avez prise sans augmentation des impôts, ni pour les habitants, ni pour les entreprises. Donc comment faites-vous pour le financement ?
C'est un choix politique. On a pu le faire de deux manières. Globalement, la gratuité du transport collectif représentait 4,5 millions d'euros par an, l'absence de billets maintenant ou de cartes. Et on a rajouté, pour améliorer la qualité du réseau, une dizaine de millions d'euros par an pour améliorer les fréquences, améliorer aussi le confort dans les bus. Donc au total, c'est une mesure à 15 millions d'euros. Il y avait un projet d'aréna ici à mon arrivée en 2014.
Alors aréna, c'est une salle de spectacle ?
Oui, une grande salle de spectacle, à la fois spectacle sportif et aussi spectacle type chanson, qui allait coûter à la communauté urbaine 8 millions d'euros par an. C'était dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et j'avais pris la décision, dans mon programme déjà, puis ensuite mise en œuvre, d'annuler ce grand projet d'aréna. Donc en annulant ce projet d'aréna, on a économisé 8 millions d'euros. Et puis les 7 autres millions d'euros, on les a, j'ai envie de dire, gagnés par des économies à l'intérieur de la communauté urbaine. On a fait des choix politiques, c'est-à-dire qu'effectivement, cet argent, on aurait utilisé pour sans doute d'autres choses, et on a préféré effectivement mettre le paquet, comme on dit, sur le transport collectif. Donc c'est un choix politique, le choix politique de ne pas construire cette grande salle de spectacle, et un choix politique effectivement d'affecter en plus 7 millions d'euros pour pouvoir, j'ai envie de dire, faire du transport collectif une priorité importante. Donc j'insiste sur le mot choix politique, parce que c'est ça qui est essentiel.
Et la communauté urbaine de Dunkerque est sur un bassin industriel qui a de nombreuses usines polluantes, une contrainte que vous avez transformée depuis nombreuses années en opportunité, notamment pour le chauffage.
Oui, alors vous savez, la communauté urbaine de Dunkerque a actuellement 50 ans, et c'est vrai que c'est 50 ans de cohabitation entre une industrie lourde sur le territoire de Dunkerque et la population et des aspirations qui, depuis longtemps, étaient déjà environnementales. Et c'est vrai que mes prédécesseurs, déjà dès les années 80, ont mis en place ce qu'on appelle le réseau de chaleur, qui permet de récupérer l'énergie fatale de l'industrie pour en faire le réseau de chauffage. Et dès les années 70 ou 80, il y a eu le souci de l'environnement, il y a eu le souci, par exemple, de développer et de boiser le territoire, il y a eu des projets projets qui ont été lancés très très rapidement à Dunkerque, comme le tri sélectif. Donc il y a une culture ici sur le territoire de, j'ai envie de dire, d'une cohabitation intelligente entre l'industrie et les problématiques environnementales. Finalement, comment on fait de ce qui est une caractéristique de notre territoire, la forte présence de l'industrie lourde, aussi une opportunité pour accélérer dans la transition énergétique et dans la transition environnementale. Le réseau de chaleur est effectivement un très bel exemple.
Et pour vous, plus largement, il est donc possible de concilier transition écologique et pouvoir d'achat, donc fin du mois et fin du monde ?
Oui, et ça c'est absolument essentiel. Vous savez, je suis également président de l'Institut des villes durables et très souvent j'ai l'occasion d'être confronté à d'autres modèles de villes durables, modèles, j'ai envie de dire, non européens ou non français. Et je pense que la grande caractéristique de notre modèle français de la ville durable ou notre modèle européen de la ville durable, c'est que nous sommes une ville démocratique. C'est-à-dire qu'on ne fera pas la transition énergétique ou la transition environnementale contre la population. Une société démocratique, elle le fait avec la population, pour la population et avec la population. Et donc c'est très important de mettre en place une des politiques publiques qui associe l'ensemble des éléments de la ville durable. Donc l'environnement, certes, mais le social et la question économique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit aussi un progrès social et aussi un progrès économique. Et c'est ce que la crise des Gilets jaunes nous révèle finalement. Il faut à chaque fois associer le social et l'économique avec les enjeux environnementaux. Et ça, ça vient en plus de toutes les politiques de sensibilisation de la population. C'est important d'avoir cet équilibre et c'est ça qui permet de tenir les choses. Le bus gratuit ici à Dunkerque en est un très bon exemple.
Alors dans sa lettre aux Français qui dresse les grandes lignes du débat national qui s'est ouvert en France mardi suite au mouvement justement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron considère que la transition écologique est l'un des quatre grands thèmes à aborder avec d'autres questions. Alors quelles sont les solutions par exemple, pose-t-il, pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir, qui doivent être conçues plutôt au niveau local que national? Et quelles propositions concrètes, continue-t-il, feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale? Qu'avez-vous envie de répondre à Emmanuel Macron?
D'abord que le diagnostic est parfaitement juste et je suis content que c'est un président de la République qui puisse le faire. Ça fait de nombreuses années que les collectivités locales le disent, qu'effectivement l'essentiel de la transformation en matière de transition énergétique, de transition environnementale se fait au niveau local. C'est là qu'on peut le mieux sensibiliser les populations. C'est là justement qu'on peut trouver les politiques publiques qui sont équilibrées, comme je disais tout à l'heure. Alors, il faut aller jusqu'au bout après. Ça veut dire donner aux collectivités locales une contribution, une part de la contribution climat-énergie. Donc il faut leur donner les moyens de pouvoir le faire parce que jusqu'à présent, depuis une dizaine d'années, on nous retire des moyens. Donc si on nous rajoute une mission, qu'on nous donne une partie des moyens qui sont alloués à l'échelle nationale. C'est aussi probablement appuyer des mesures de politique publique qui puissent être différenciées suivant les territoires. Ici à Dunkerque, la solution pour développer le transport collectif, c'était le bus gratuit. Je ne dis pas qu'il faut le faire partout, mais ici à Dunkerque, c'était bien adapté. Eh bien, dans un autre territoire, ce sera une autre solution. À l'État de comprendre que pour faciliter la transition énergétique, pour faciliter la transition environnementale, il faut du coût humain. Et donc là, les territoires savent le faire et ne pas arriver avec des solutions toutes faites qui chercheraient à être valables dans toute la France. Ça ne marche plus. D'où d'ailleurs l'idée du droit à l'expérimentation qui doit aussi pouvoir se développer dans les différents territoires. Donc je dirais deux choses. Un, OK sur le diagnostic, mais donnez-nous les moyens correspondants, notamment avec une part de la contribution climat-énergie. Et puis deuxièmement, si vous reconnaissez l'importance du niveau local dans la transition, eh bien, j'ai envie de dire, laissez-nous faire du coût humain et des politiques publiques adaptées à ce qu'est l'histoire de notre territoire ou la culture locale.
Merci Patrice Vergriette.
Merci à vous.
Plus de moyens et le droit à l'expérimentation. J'imagine que vous partagez les mêmes revendications, Louis-Philippe Blervac, pour la région des Hauts-de-France.
Oui, effectivement, dès le début de la démarche, on a souligné ce besoin d'avoir la possibilité d'expérimenter parce que la réglementation est faite pour ce qui existe aujourd'hui. Elle ne prend pas forcément en compte les solutions qu'on est en train de développer. On est parfois bloqué par ça et on a besoin de pouvoir faire quelquefois, de s'arranger au niveau du territoire avec nos solutions. S'agissant des financements, il y a trois aspects. Effectivement, sur des politiques ambitieuses, il va falloir des financements de niveau national et européen qu'il faut savoir aussi aller chercher quand ils existent. Mais il y a également le fait de se dire que il faut saisir l'opportunité quand c'est possible du contrat de transition écologique. Donc ça, c'est par exemple la communauté urbaine d'Arras qui l'a fait. Et puis se dire aussi qu'il existe des financements qu'il faut savoir aller chercher. Ils sont là. On ne va pas suffisamment les chercher. Et au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, on a créé ce qu'on a appelé un hub financement, où on met autour de la table l'ensemble des financeurs, que ce soit du crowdfunding, que ce soit du haut de bilan, que ce soit du prêt bancaire, les grandes banques y sont. Et on mobilise des fonds, notamment un fonds qui a été créé spécifiquement avec la Banque européenne d'investissement pour financer des projets d'entreprises et Hauts-de-France. Et je termine sur cet exemple avec également le livret 3e révolution industrielle qui a été mis en place, qui est un livret où chaque citoyen français peut mettre de l'argent comme sur le livret A, et c'est de l'argent qui ne sert qu'à financer des projets REF3 en Hauts-de-France.
Alors Nicolas Soudon, vous allez dire l'ADEME en France accompagne aussi les collectivités territoriales, mais si on sort un peu du contexte franco-français, globalement, c'est vrai que cet accès au financement, c'est quand même compliqué pour les territoires.
Alors c'est compliqué, je voulais signaler d'ailleurs l'exemple que citait Patrice Vergrit du réseau de chaleur de Dunkerque, c'est un très très bel exemple, un beau projet qui permet d'utiliser l'énergie produite par le centre de valorisation des déchets, et c'est un projet qu'on a soutenu à hauteur de 7 millions par an, 7 millions sur l'ensemble du projet, pardon. Donc c'est le signe quand même, l'État est là aujourd'hui auprès des territoires. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Et il en faut beaucoup plus. Quand on voit le rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement, on voit qu'il faudrait que les États, en général, triplent leurs efforts pour être en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique. Donc il faut aller plus loin. Il faut effectivement mobiliser les financements qui existent, les financements européens notamment. Aussi, trouver l'articulation pour recourir au financement du monde de la finance. Comment accéder à la finance verte? Il y a des choses qui sont en train de se construire aujourd'hui. Il faut certainement, et Renan Dautec a certainement des exemples à cet égard, il faudra certainement aider les collectivités à faire des montages avec l'aide de la Caisse des dépôts par exemple. Donc il y a certainement des choses à faire, mais c'est pas qu'une question d'argent. Et en l'espèce, il y a des territoires, on l'a dit, qui sont déjà très allants, qui sont très performants, il y a des territoires qui sont un peu en retrait et qu'il faut essayer d'accompagner, leur donner de l'expertise, leur apporter de l'animation, les pousser, leur donner des exemples aussi à aller visiter pour pouvoir s'engager dans la transition écologique.
Alors, Renan Dautec, justement, dans votre rapport de l'Observatoire mondial de l'action climatique des acteurs non étatiques, vous avez un volet qui s'intéresse aux investisseurs, à la finance, et on voit que, contre toute attente, depuis quelques années, la finance se met au rythme de la transition écologique.
C'est un acteur qui vient aujourd'hui sur la transition, les assureurs, y compris parce que le modèle assurantiel ne survivra pas au dérèglement climatique. Il y a beaucoup d'outils qui se créent, mais qui sont encore très, très secondaires quand même, hein, dans les grandes masses financières. Donc, cette question de l'accès au financement est centrale. On entendait Patrice Vergrit, lors d'une précédente édition des Assises, nous avions tous les deux lancé à la tribune ce principe d'une dotation climat pour accompagner les collectivités qui mettaient en place leur plan climat, puisqu'en France, le plan climat est obligatoire normalement pour l'ensemble des intercos. Mais beaucoup n'ont pas les moyens de l'ingénierie, n'ont pas les moyens de payer l'animation. Malheureusement, le gouvernement, et c'est pas faute de lui avoir proposé, n'a jamais pris la proposition qu'on avait donc adossée à l'augmentation de la contribution carbone.
Mais il faut
la
taxe carbone dans le grand débat.
Maintenant, effectivement, je crois que c'est toute la question. Cette taxe carbone, elle est maintenant bloquée. Il y a eu les gilets jaunes. Si on avait, dès le départ, dit une partie de cette contribution climat et pour les territoires et pour aider les gens sur leur mobilité, pour ceux qui étaient les plus en difficulté, on n'aurait peut-être pas eu la crise des gilets jaunes. On l'avait dit à l'époque, maintenant, effectivement, est-ce que le grand débat va permettre d'y revenir ou est-ce qu'on va considérer qu'on a maintenant un tabou qui est la taxe carbone? C'est quand même la troisième fois on revient en arrière. Il faut qu'on s'y engage. Mais sans financement, ce qu'on voit à l'échelle mondiale, c'est quand même que ce sont sinon les territoires riches, la Scandinavie, la Californie, les villes françaises les plus riches, qui atteignent leurs objectifs, pas les autres. Donc cette question de l'accès au financement va être centrale si on veut tenir des objectifs.
Alors François Glézot et Clément Bresciani de l'association Les Vagabonds de l'énergie, comment est-ce que vous réagissez à cette discussion avec vos yeux de vagabonds?
Je me permets justement d'intervenir parce que c'est très important et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire français, enfin c'est merveilleux. Mais on voit aussi très bien que les banques françaises aujourd'hui contribuent énormément à l'investissement dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, la première énergie en développement, c'est le charbon. Ce que je veux dire, c'est qu'on a nous-mêmes à faire un peu un mea culpa et à regarder dans nos banques, parce qu'on nous vend des livrets de développement durable qui financent des énergies fossiles. Donc je pense que justement, les Français ont soif d'un peu plus d'éthique. Ce serait intéressant du coup un peu de traçabilité et de retour à tout ça.
Est-ce que vous allez participer, vous, à ce grand débat national?
Franchement, un débat top-down, de l'État qui vient vers les populations, j'y crois pas beaucoup. En fait, toutes les questions ont été proposées avant. Je préférerais un débat qui vienne d'assemblées générales, citoyennes, et puis qui viennent du peuple, quoi, sans parler de dictature du peuple, mais justement de remettre la démocratie participative.
Clément Bresciani.
Mais oui, c'est quand même drôle, on a un président de la République qui vient dans les territoires chercher des solutions, alors que ça fait des années qu'on a tout un tas d'associations qui les montrent, ces solutions, qui montrent qu'elles existent et qu'elles marchent très bien. Et donc quand on parle de se déplacer, on a plein de solutions pour sortir la voiture du centre-ville, pour développer les transports urbains et périurbains, et donc petit à petit délaisser la voiture. Pour se loger mieux, on sait comment isoler correctement nos logements et on demande juste un peu plus d'aide peut-être et d'accompagnement pour les particuliers. Et pour se nourrir, on a plus qu'à appuyer les AMAP et l'agriculture périurbaine qui est déjà en train de se développer mais qui n'attend plus qu'un coup de pouce. Donc finalement, les initiatives, on les connaît déjà et bon, peut-être que ce grand débat va développer des choses, mais ça donne pas envie d'y aller parce que ça fait des années qu'on se bat pour ces choses et qu'on a l'impression de ne pas être entendu, quoi.
Bah oui, Nicolas Soudon, 52% des Français n'ont pas l'intention de participer.
Oui, en même temps, quand on regarde les choses, il faudrait éviter que les débats se fassent par cercles qui étanchent les uns par rapport aux autres. Moi, je veux bien que tous ces débats, effectivement, d'environnement, on les traite ensemble entre spécialistes de l'environnement, on est le plus souvent d'accord. Mais quand on met les priorités environnementales en face de priorités sociales, en face de priorités éducatives, etc., c'est ça qui est intéressant dans ce débat et qui se mènera, me semble-t-il, à l'échelle des communes. Si on peut faire se rencontrer ces différentes priorités et voir comment nos concitoyens arrivent à mettre en regard les différents sujets, je pense que la transition écologique et énergétique peut en ressortir grandie. À condition qu'on objective aussi les sujets techniques qui vont avec. Donc ce sera un des rôles modestes de l'ADEME que d'apporter aussi un rôle de tiers de confiance pour que les données qui soient transmises soient justes.
Renan Danté.
En peu de phrases, il y a quand même un enjeu majeur de ce grand débat. Après la crise des Gilets jaunes, qui a donné un moment le sentiment que finalement la population n'était pas prête à faire les efforts pour tenir les objectifs sur la transition climatique. Et on parle pourtant des enfants aussi, de ceux qui étaient sur les ronds-points. Il faut absolument que le débat montre qu'on est capable de trouver un contrat social, justement, sur le court et le long terme. Donc c'est tout l'enjeu du débat, c'est un débat complexe, mais je crois que c'est quand même un débat qui est venu de la population au départ, par cette mobilisation des Gilets jaunes, donc il faut profiter du débat, et après le gouvernement prendra ses responsabilités, et on sera en situation de dire s'il a ou pas entendu le message.
Bon, on refera la même émission dans 2 mois. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci à François Porcheron pour la réalisation, et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent @rfi.fr.